franceinter.fr.
Il est 8h22.
Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Jean-François Delfraissy.
Bonjour.
Vous venez de prendre vos fonctions à la tête du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. C'est le titre complet. Vous succédez à Jean-Claude Amezen. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine, immunologiste. Vous avez travaillé à l'hôpital Becler de Clamart, puis comme chef de service à Bicêtre. Vous avez été chercheur à l'INSERM, l'un des pionniers de la lutte contre le sida. Et en 2014-2015, le coordinateur en France de la lutte contre le virus Ebola. Mais si vous deviez vous définir ou vous résumer?
Je suis un médecin.
Un médecin, simplement. Et un poste, le poste où vous vous êtes senti le plus utile?
Bah, ce sera maintenant celui de président du Comité national d'éthique.
Bon, on est diplomate avec cela. Alors, il y a un dossier politique explosif que vous avez trouvé en arrivant au CCNE, c'est celui de la PMA, la procréation médicalement assistée, et son éventuelle ouverture aux femmes célibataires et lesbiennes. Les avis du comité sont consultatifs, évidemment, comme son nom l'indique, mais ils sont souvent décisifs. Comment allez-vous travailler, professeur Delfraissy?
Alors, d'abord, je succède, comme vous l'avez dit, Jean-Claude Amezen. Il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué sur le sujet au cours des 3 dernières années. Certains considèrent que c'est un peu long et qu'il faut maintenant, je dirais, délivrer au sens anglo-saxon du terme un avis. Donc, c'est ce qu'on va faire grâce à un très beau travail qui a été réalisé. Après, c'est la conception même de ce qu'est le Comité national d'éthique. Est-ce que c'est un comité qui est là d'experts pour faire des recommandations, donner des avis,
ouais.
Ou est-ce qu'au contraire, et ça rejoint la discussion que vous avez eue avec le philosophe précédent,
ouais.
Ou est-ce qu'au contraire, on doit aider la société, aider les citoyens à prendre conscience des problèmes, à les aider à franchir les étapes de la réflexion sur des sujets difficiles, mais somme toute sans trop aller dans les avis. Alors moi, j'ai une opinion là-dessus, je pense que c'est un équilibre entre les deux, parce que il faut ouvrir, bien sûr, l'éthique n'appartient pas qu'aux experts. Ou plus exactement, elle a besoin de l'expertise, elle a besoin de grands cerveaux qui réfléchissent et qui émettent un certain nombre d'idées. Elle a besoin aussi de s'appuyer sur une éthique de terrain et la société, vous, moi, dans ce qu'on fait tous les jours, on peut avoir un avis sur des sujets d'éthique biomédicale.
Mais au fond de vous-même, votre opinion, qui détient la vérité sur ces sujets extrêmement complexes, médicaux et scientifiques? Les savants, les personnes concernées, les associations, les groupes de pression, les religieux, les philosophes?
C'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça. Et d'abord, il doit y avoir connaissance des enjeux qui sont pas forcément connus, parce que chacun est tellement dans son lobby pour pousser tel ou tel type de décision qu'une série de lobbies ne fait pas une vision d'ensemble. Là, ce qui sera rendu par le Comité national d'éthique, ça sera dans le printemps 2017, donc vous voyez que je me mouille et je m'engage sur ça, eh bien, ça sera un avis général sur finalement une vision très globale autour de la PMA, y compris dans ces aspects difficiles autour de la grossesse pour autrui, par exemple.
C'est un avis qui a été plusieurs fois retardé, qui est très attendu. Donc, vous le datez, vous l'annoncez pour le printemps 2017 avec le comité que vous présidez dans sa nouvelle composition. Quels sont les enjeux, quelles sont les données du problème? Est-ce que vous pouvez le résumer, professeur Delfraissy?
Oui, bien sûr. Elles ont été très bien résumées par le manifeste porté par René Friedman et avec une série de gynécologues ou d'hommes de l'art sur le sujet. Et bon, je connais René depuis longtemps et bien sûr, je suis à l'écoute de ce que sont les experts là-dessus. Bon, à l'inverse, il y a une série de décisions sociétales difficiles. Par exemple, prenons la grossesse pour autrui, la GPA.
Ouais.
C'est quelque chose de difficile. On dit, il y a un besoin pour un certain nombre de couples dans des situations diverses et variées, d'aller, et la France ne le permet pas, vous le savez, et d'avoir une grossesse qui est portée par autrui. Et donc un besoin sociétal absolument indiscutable, limité, mais sur le fond indiscutable. Et puis, dans l'autre sens, il se passe un certain nombre de choses. sur ces autour de ce sujet, où on a des jeunes femmes, voire des jeunes filles, voire des adolescentes qui, dans un certain nombre de pays du tiers-monde, par exemple, sont vendues. Et sont vendues pour ensuite devenir des porteuses de grossesse, 4-5 grossesses dans des entreprises, et où on est là donc à une affaire uniquement mercantile. Donc c'est-à-dire que on doit peser à la fois un besoin indiscutable qui existe et où par exemple la Belgique, l'Angleterre répondent de façon plus ouverte que dès la France d'un côté, et puis de l'autre côté une vision autour de choses qui sont totalement inacceptables. Par ailleurs, regardez sur que deviennent les enfants, puisqu'il y a un certain nombre de couples français qui ont été portés des grossesses à l'étranger. Le statut juridique de ces enfants est loin d'être clair. Bon, ils peuvent vivre tous les jours, c'est pas le souci dans l'immédiat, mais il est loin d'être clair sur le fond, parce qu'on touche là à quelque chose qui touche autour de la parentalité. Hein. Et donc c'est une série de questions, et le Comité national d'éthique, soit il prend des positions extrêmement claires et des recommandations, soit, comme je vous l'ai indiqué, il peut aussi, sur certains sujets extrêmement difficiles, porter le débat, éclairer la société.
Sur la GPA, vous venez
sur les enjeux.
Sur les enjeux. Et sur la GPA, vous venez de résumer deux visions qui, pardon pour prendre cet adjectif très à la mode en ce moment dans le débat politique, paraissent irréconciliables et le comité que vous présidez ne tentera pas de les réconcilier. Il y aura un éclairage, c'est bien ça que vous nous expliquez.
L'éclairage est quelque chose d'important. On prendra peut-être un avis. Je vous ai donné l'agenda. L'agenda, il est du deuxième trimestre 2017,
Est-ce
au printemps.
Est-ce que vous prendrez position aussi sur la question de la conservation des ovocytes pour les femmes désireuses d'avoir un enfant plus tard?
Oui, il y aura une prise de position de la part du CCNE sur ce sujet. Vous savez que la conservation des ovocytes est pour l'instant réservée aux femmes qui ont une pathologie médicale ou qui vont être traitées par un traitement qui pourrait interférer avec les phénomènes d'ovulation, mais n'est pas pour l'instant fermée, je dirais, à une femme qui souhaiterait congeler ses ovocytes pour elle-même, entre guillemets, pour ensuite les utiliser 15 ans plus tard, à une période où elle va être moins féconde, par exemple. Il y aura une prise de position, là, assez claire aussi, de la part du CCNE.
En même temps. Hein.
En même temps.
Est-ce que vous comptez rouvrir le dossier de la fin de vie?
Écoutez,
c'est une demande que vous entendez aussi,
bien sûr,
compte tenu de la législation existante, mais qui ne satisfait pas tout le monde.
Les deux grands sujets du CCNE ont été jusqu'à maintenant autour de la fin de vie et de la PMA. Je souhaiterais qu'on ouvre le CCNE à d'autres sujets sociétaux, que bien sûr ces deux sujets restent deux sujets régaliens, si je peux dire, mais qu'il y ait d'autres sujets sociétaux qui apparaissent dans l'agenda.
Lesquels ?
La fin de vie n'est pas une priorité, je dirais, dans le temps pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses de fait. Il y a une loi qui est passée début 2016, avec la loi Claeys-Leonetti. On va avoir la réforme de la loi bioéthique en 2018, donc il faudra qu'on s'y remette. Et donc ce n'est pas la priorité, en tout cas, pour 2017. Alors les autres sujets ? Eh bien les autres sujets, c'est quand on s'intéresse aux aspects éthiques autour des conséquences de la recherche biomédicale. Il y a l'aspect biotechnologique, bien sûr. Quels sont les progrès en biotechnologie qui vont poser un certain nombre de questions éthiques? Et puis, il y a la vision sociétale de la santé. Par exemple, le coût de l'innovation et le coût des médicaments. Quels enjeux, entre guillemets, éthiques il y a pour l'accès, finalement, à l'innovation thérapeutique? La santé chez les migrants, le problème des migrants, et vous en parlez tous les jours, les politiques en parlent, il y a somme toute assez peu de données scientifiques. Et quid d'un certain nombre de questions?
À un moment où certains projets politiques promettent de supprimer l'aide médicale d'État.
Et c'est pour ça que le Comité national d'éthique est un point clé, entre guillemets, entre des réflexions d'experts, et puis bien sûr, une interface avec des sujets politiques et sociétaux. Mais je rappelle que ce qui fait la force du CCNE, c'est son indépendance. Donc, sur les migrants. Et puis, il y a d'autres sujets, bien sûr. Par exemple, autour de relations entre santé et biodiversité, hein, qui est un sujet également. Sur le vieillissement, nous avons un groupe de travail qui est parti, là, maintenant, autour de, finalement, comment conçoit-on et quelles questions éthiques autour du bien vieillir et on voit bien que dans nos sociétés actuelles françaises, il y a des visions très différentes de ce qui peut se passer ailleurs. Voilà toute une série de questions que je souhaite ouvrir.
Des questions que les auditeurs de France Inter vont forcément relayer auprès de vous dans quelques minutes. Au standard, ils nous appellent au 01 45 24 7000. Professeur Delfraissy, il est 8h32.